Bonjour Daniel Janto, vous êtes encore directeur artistique du studio de théâtre de Vitry pour quelques mois, avant de prendre la direction du théâtre de Gennevilliers en janvier. Je voulais savoir si diriger un des lieux historiques et emblématiques de la décentralisation à la française implique une approche différente.
Oui et non. Évidemment, on ne peut pas diriger le théâtre de Gennevilliers comme on dirige le studio théâtre de Vitry, mais le studio théâtre de Vitry, c'est aussi un lieu de la décentralisation et qui a une histoire plus ancienne encore que celle du théâtre de Gennevilliers, puisque le studio théâtre a été fondé en 1963 par Jacques Lassalle. Enfin, c'est à peu près concomitant, c'est à peu près le même moment que Bernard Sobel à Gennevilliers. C'est une toute petite institution, mais qui finalement a pour vocation de se consacrer à la création et de la partager, avec des proportions beaucoup moins grandes et évidemment moins de responsabilités liées au territoire, liées au fonctionnement. C'est une équipe toute petite et on y fait un peu ce qu'on veut d'ailleurs. C'est un espace de liberté vraiment intéressant. Non, moi je dirais que l'enjeu le plus important, c'est de ne pas se laisser impressionner et ne pas, surtout ne pas se laisser impressionner par l'histoire. Je pense que vraiment l'un des enjeux majeurs qui se présente à moi, et que je pense crucial, c'est de ne pas faire comme mes prédécesseurs. Non pas que je refuse la continuité ou que je ne veuille pas, que je n'estime pas leur travail, que je ne l'admire pas, si, au contraire, bien au contraire. Mais le monde change et il faut se garder de former des modèles et de figer les institutions selon des conceptions qui n'ont plus cours ou simplement parce que le monde change. Je pense que le travail qui a été fait à Gennevilliers a été assez magnifique, un travail de fond, courageux, pionnier. Mais je pense que le réseau des théâtres publics en France souffre d'une trop grande identification au modèle de Jean Villard, au modèle peut-être même de Vitesse. La pensée de Villard valait pour l'époque de Villard. On peut s'en inspirer aujourd'hui, on peut la confronter avec notre présent. Mais je pense que c'est absolument fondamental de penser les lieux de théâtre public différemment. Et par exemple, l'un des grands problèmes des théâtres publics, des théâtres nationaux, des centres dramatiques nationaux, c'est cette conception de la culture, de la maison de la culture, comme une sorte de temple, de grande maison publique, nationale, très très verticale, très haute, une très haute figure du directeur, metteur en scène, artiste, homme providentiel, qui, même s'il est motivé par une vraie volonté de partage, représente, disons, une forme de suprématie, de grandeur. Tout ce qu'il est définit ce que les autres ne sont pas. Je pense que ce rapport-là à la création, ce rapport-là à la figure de l'artiste, metteur en scène, doit changer, le monde change. Et on souffre de cette verticalité, spécialement en France. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'allure du bâtiment du T2G, qui est un beau bâtiment des années 30. C'est quand même un bâtiment qui est précisément marqué par cette verticalité, avec un escalier monumental, des lignes très verticales, et tout se passe dans les étages, au-dessus de la rue. Le geste génial est complètement refondateur de Pascal Rambert, et d'avoir avec Patrick Bouchain descendu le hall d'accueil dans la rue et de l'avoir conquis sur l'espace public. C'est le commencement d'un geste que j'aimerais bien prolonger. C'est peut-être ça qui pourrait définir mon projet pour Gennevilliers. Je m'inscris complètement dans la ligne, la généalogie Sobel-Rambert pour la prolonger et non pas pour l'imiter, évidemment, pas pour la reproduire à l'identique. En descendant les espaces d'accueil, d'une façon généreuse, ouverte et lumineuse et moderne par Pascal et Patrick Bouchain, j'aimerais bien continuer ce geste-là, développer encore cet espace, le confirmer, puisque ce sont des espaces qui ont été construits d'une façon provisoire. Il y a un grand projet immobilier qui veut d'ailleurs que la municipalité porte et qui veut installer un centre commercial sous le théâtre et derrière. Donc, tout ça va être très bouleversant pour le bâtiment, pour la vie même du théâtre. Je veux que le théâtre ait son mot à dire et sa place dans ce projet et qu'on continue de descendre, d'horizontaliser, disons, le rapport à la création. Pas seulement d'ailleurs en termes d'architecture, mais aussi en termes de choix artistiques, de programmation, mes propres créations, etc. C'est un dialogue avec le monde, ça ne peut pas être un conservatoire.
Oui, justement, c'était le sens de ma question suivante. Comment allez-vous intégrer cette idée d'ouverture dans votre programmation à venir ?
Ben, en fait, déjà, en déplaçant l'activité du théâtre un peu à côté de la question de la programmation, c'est-à-dire que les problématiques d'un théâtre ne sont pas seulement dans sa programmation, ce n'est pas la seule chose. C'est important qu'un théâtre ait une vie indépendamment des moments de la représentation. C'est pour ça d'ailleurs que le projet DUU, de la radio, de l'unité radiophonique mobile, m'intéresse, parce que précisément c'est un projet artistique qui articule un regard, une exigence, une part de création pointue, rare, comment dire, et fondamentale, enfin une part de recherche fondamentale qui n'est pas assujettie, disons, aux questions de rentabilité immédiate. Et en même temps, cette exigence-là s'articule avec une ouverture, un rapport immersif de proximité avec la ville, avec le tissu de toute une ville. C'est un hasard qu'on se rencontre à ce moment-là, mais le projet que je veux porter au Théâtre de Gennevilliers ressemble beaucoup à celui-là, à ce projet d'unité radiophonique mobile, c'est-à-dire ne rien concéder sur l'utopie d'une recherche artistique émancipée, libre, forte, indépendante et non assujettie aux lois du commerce, non soumise aux règles de la séduction, des choses qui peuvent être vraiment totalement affranchies du besoin de plaire, mais généreuses, mais offertes réellement. Et néanmoins un vrai rapport de proximité, une inscription dans la ville, habiter, être là. Si vous voulez, pour l'instant, le théâtre de Gennevilliers, mais comme le TGP à Saint-Denis ou le théâtre le CDN de Montreuil, la plupart des CDN des théâtres publics de banlieue sont un peu des théâtres parisiens mal placés, mal situés, avec des problèmes de transport et de sécurité, etc. Il faut que ça change, on ne peut pas continuer de penser ces établissements publics qui coûtent pas mal d'argent, y compris aux contribuables qui vivent autour. Il faut arrêter de les penser en fonction exclusivement de Paris, disons. Surtout si on essaye un peu de rattraper le retard qu'on a sur la formation du Grand Paris. Le Grand Paris, au-delà du projet politique, c'est une évidence biologique. C'est quelque chose qui a commencé il y a longtemps et qui se fait petit à petit, mais mal, et avec une grande difficulté. Précisément parce que Paris se pense mieux séparément de sa banlieue. Il faut que ça change. Et il faut d'ailleurs que les artistes qui préfèrent se penser parisiens que banlieusards cessent de penser les théâtres qu'ils occupent comme des théâtres parisiens. Il faut les penser plus largement, et pas seulement d'ailleurs en termes de périphérie ou de Grand Paris. Il faut habiter le monde. Ce que Pascal Rambert a commencé à faire d'ailleurs d'une façon très forte.
Et justement, vous avez déclaré vouloir mener un projet très ouvert sur la ville, comme vous l'avez dit. Le projet ILO, un laboratoire de création et de recherche mené par Sonia Chambretto et Johan Tomrel, en fait-il partie ?
Oui, absolument. C'est d'ailleurs un projet assez central. Justement, parallèlement à la programmation, qui devrait représenter d'ailleurs une forme de continuité avec Pascal Rambert. J'adorais sa programmation, j'avais envie d'aller tout voir. J'ai pas tellement envie de réintroduire des formes plus traditionnelles. Je pense que ça restera assez... On prolongera en tout cas la trajectoire qu'il a inaugurée. Mais parallèlement à cette programmation, oui, il y a le projet ILO qui est vraiment un projet qu'on place au centre de notre action dans le théâtre et dans la ville. Sonia Chiambretto et Johan Tomrel sont des auteurs, poètes, éditeurs aussi. Ils ont une activité assez ouverte. Très axé sur la littérature, mais aussi très engagé politiquement. Le projet ILO, c'est le projet de la formation de formation de ce qu'ils appellent un groupe d'observation des ghettos, un groupe d'information sur les ghettos, pardon, sur l'idée tournant autour de l'idée d'exclusion, mais abordé d'une façon, disons, abordé comme un outil poétique de production de matière de langage, si vous voulez. C'est-à-dire que ce groupe d'information sur les ghettos se réunit, rassemble toutes sortes de personnes, des habitants, des gens du théâtre, pourquoi pas, des chercheurs, des sociologues, des scientifiques. Ils se réunissent pour élaborer des questionnaires qui sont conçus des questionnaires qui sont conçus comme des œuvres poétiques déjà en soi, en eux-mêmes. Ce n'est pas vraiment des questionnaires techniques qui servent à recueillir des informations précises qui orientent les réponses. Mais c'est des questionnaires qui cherchent à provoquer des sortes de fractures dans la parole des personnes auxquelles ils sont soumis et qui suscitent de la matière, une matière qui, plus tard, après avoir été rassemblée, travaillée, lue, servira de matériau d'origine pour produire des formes spectaculaires, des formes performatives. Donc c'est un processus long, un peu comme vous d'ailleurs, c'est un processus sur 3 ans, complètement immersif, assez large, plutôt discret, longuement discret, une sorte de mycélium qui devrait fuser hors du théâtre, d'où émergeront des formes de spectacle, ou des formes de performance, ou des rencontres, des présentations, toutes sortes de choses. C'est un travail de fond.
Et vous qui avez été plusieurs fois artiste associé à la programmation d'un théâtre, ici vous avez choisi 2 artistes, Lazare et Adrien Béal, pour vous accompagner dans les actions menées par le théâtre. Quelles sont ces actions et comment allez-vous collaborer? Comment se répartiront les rôles?
Alors, ce n'est pas vraiment d'ailleurs des associations, on les a appelées des fidélités. J'aime pas trop les associations dans la mesure où moi-même j'ai été beaucoup associé à pas mal de théâtres. Et c'était en général plutôt bien et assez généreux, mais c'était très variable. Cette notion, finalement, on en fait un peu ce qu'on veut. J'avais envie d'attirer Lazare et Adrien parce que ce sont 2 personnes que j'ai déjà beaucoup suivies et observées dans leur travail, et suivies et accompagnées au studio Théâtre de Vitry. Et ça m'intéressait de les avoir tous les deux dans la maison parce qu'ils sont absolument opposés. Ces 2 personnes qui sont vraiment le contraire l'un de l'autre. Autant Lazare est quelqu'un de très proliférant. C'est un poète, un auteur très inspiré, aussi bien au plateau que dans ses écrits, très oral aussi, très centré sur son imaginaire, très intuitif, assez explosif, proliférant, entouré toujours d'une bande changeante mais très fidèle. Alors qu'Adrien Béal est quelqu'un qui est entouré d'une équipe aussi très solide et très, très fidèle, mais c'est quelqu'un de calme, d'assez silencieux, lui-même n'est pas comédien. Et il travaille, disons, en observation longue du monde et produit des formes, pas toujours, mais souvent des formes d'écriture de plateau avec ses comédiens. Ils écrivent leur dialogue, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, mais ils le font d'une façon qui est assez intéressante parce que ça n'est pas du tout tonitruant, c'est pas des formes qui s'imposent par une singularité violente, mais qui sont d'une grande subtilité dans leur approche du présent, dans leur approche du réel, et qui constituent des moments de théâtre assez fragiles, assez ténus, mais très agissants, qu'on garde en mémoire longtemps. Les univers de Lazare et d'Adrien Béal agissent de façon très très différente. Mais dans les 2 cas, c'est des formes de théâtre qui explorent le présent dans des recoins qu'on fréquente peu. C'est ça qui me plaît chez eux. C'est ce rapport au présent. Si d'ailleurs on voulait donner une forme un axe sur ce que j'aimerais mener, sur l'ensemble des actions que j'aimerais mener au théâtre de Gennevilliers, c'est de produire un théâtre qui soit moins contemporain que présent, si vous voulez. C'est-à-dire quelque chose qui soit moins... je me méfie maintenant du terme contemporain dans la mesure où il a pris une forme de verticalité, parfois d'arrogance. En tout cas, il produit de la distance, il produit une forme d'exclusion par le fait que ça définit un registre artistique, une modalité d'approche de l'art, un certain type de discours. Ça m'intéresse assez de voir qui est rassemblé par le terme de présent, être présent au monde, la présence du comédien, aux spectateurs qui sont en face de lui, être présent les uns aux autres. Qu'est-ce qui nous rassemble dans cette notion de présent, qui ne veut pas dire d'ailleurs la simultanéité ou l'immédiateté.
Vous allez mener à Gennevilliers beaucoup de collaborations. Est-ce que ces collaborations viennent du fait qu'en tant que scénographe, vous avez beaucoup collaboré avec notamment Claude Régis ou le précédent directeur du théâtre de Gennevilliers, Pascal Rambert?
C'est absolument ça, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que personnellement, je ne me pense pas du tout, mais profondément au fond de moi-même, je ne me pense pas du tout comme un auteur, par exemple. Je ne me sens pas du tout auteur de mes mises en scène, ni même de mes scénographies. Ce qui m'a plu dans le métier du théâtre, et c'est ce que je suis venu chercher, je pense, sans trop le comprendre au début, c'est comment, dans l'expérience d'une collaboration, je peux m'augmenter de l'intelligence des autres. je peux acquérir dans la rencontre et dans l'effort du travail, dans la concertation, dans la concentration, des répétitions, de la préparation de la scénographie avec les ouvriers, les constructeurs, le bureau d'études. Comment j'ai très vite compris comment je pouvais faire plus que mes capacités en mettant mon cerveau en réseau avec celui des autres. Et j'ai fait l'expérience, j'ai eu la chance de faire des expériences qui sont vraiment inoubliables, notamment avec Claude Régis, où ensemble, tous ensemble, on parvenait à concevoir des choses que nous étions incapables d'imaginer, seuls, séparément. La constitution de cette espèce d'être anonyme et multiple, qui plane un peu au-dessus de nous, cette espèce de centre chaud auquel on se rapporte, mais qui n'est pas nous et qui n'est pas toujours en nous, mais qui nous inspire, qui nous nourrit, qui nous donne la réponse, c'est l'une des expériences les plus intéressantes que j'ai jamais vécues. Ça n'est pas systématiquement, c'est pas à chaque fois. Et ça m'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois de faire des scénographies, de concevoir des scénographies, de les réaliser de bout en bout, selon mes idées, mes intuitions, mes désirs, mes fantasmes, de tout déterminer. Et c'était vraiment mon œuvre. Et de trouver ça finalement assez peu, assez décevant. Ça n'était que de moi, si vous voulez. Et en revanche, j'ai vécu des fois des choses où des projets à l'intérieur desquels j'ai dû renoncer beaucoup à m'exprimer, j'ai dû abandonner des vrais désirs, j'ai dû renoncer à des joies que j'aurais pu vivre en réalisant telle et telle forme, tel projet, telle hypothèse. J'ai beaucoup renoncé et en définitive, dans la réalisation d'un objet que j'ai trouvé beau, que j'ai trouvé accompli et fort, je me suis retrouvé, mais par le détour d'un renoncement assez important. C'est-à-dire que je ne me suis pas du tout exprimé à travers cette forme, mais j'y ai contribué, elle est passée à travers moi, et conjointement aux autres. Et certains de ces spectacles, par exemple, auxquels j'ai contribué, soit en étant le metteur en scène, soit en étant scénographe, m'ont exprimé, mais je ne me suis pas exprimé à travers eux. Mais ça a exprimé quelque chose de moi, de même que les autres d'ailleurs. Ça m'a exprimé à travers l'expérience d'une forme d'anonymat. Ça m'intéresse beaucoup. Et c'est pas du tout de la modestie, je suis pas quelqu'un de modeste. Mais c'est intéressant quand on fait l'expérience de cette faculté qu'ont les humains, et qui fonctionne dans tous les domaines, et qui est une faculté qui relève de l'anthropologie ou de la biologie, cette faculté qu'ont les cerveaux humains de fonctionner ensemble et d'emprunter leurs capacités les uns aux autres pour, précisément, pour s'augmenter. Cette forme de réalité augmentée que l'informatique imite, m'intéresse beaucoup. Cette façon d'être en réseau, si vous voulez, les uns les autres. C'est comme ça que j'aime bien travailler. Donc effectivement, j'ai envie de concevoir le théâtre non pas selon, disons, une entreprise que je dirigerai, dont je serai le PDG, mais précisément comme un organisme vivant, comme une chose très horizontale. J'ai une responsabilité, j'assumerai ma responsabilité de directeur, je ferai des choix, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on travaille ensemble, d'une façon parfois inattendue, en acceptant d'ailleurs tous les malentendus qui sont toujours très intéressants et féconds pour produire des pensées nouvelles. Mais j'ai envie, disons, que le travail se fasse dans cette concertation horizontale et non catégorielle.
Et peut-être, pour finir, une dernière question. Est-ce que votre défi et de faire venir les habitants de la ville au théâtre, ce qui est un enjeu financier d'une institution comme le Théâtre de Gennevilliers, ou que le théâtre, au contraire, aille à leur rencontre.
Oh ben c'est l'œuf et la poule, quoi, disons. Si vous voulez, actuellement, la population de Gennevilliers vient très peu au théâtre, mais c'est un peu le cas à Saint-Denis, où j'habite. Les gens ne vont pas au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, très peu, un petit peu, mais pas beaucoup. Sauf les publics captifs, les élèves, les lycéens. C'est un projet à la fois très ancien et très difficile. C'est aussi une forme d'utopie. Au studio Théâtre de Vitry, on a quelques archives qui datent de la création du studio par Jacques Lassalle. C'est des documents qui datent de 65-66. À l'époque, déjà, ils écrivaient dans des comptes rendus que leur premier objectif, c'était de faire venir les vitriots. Ils faisaient du porte-à-porte, ils allaient sur les marchés, ils faisaient signer des adhésions, etc. Et les gens venaient pas, déjà à cette époque-là. Et en même temps, c'est pas vrai, ce discours actuel qu'on entend souvent, spécialement d'une classe politique particulière et précise, que la démocratisation culturelle est un échec, ça ne marche pas, etc. C'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup plus de citoyens français qui accèdent à la culture, qui vont au théâtre que dans les années 50. Et dans des expositions d'art contemporain ou autre, c'est incomparable. Mais c'est vrai que c'est encore très peu et très insuffisant. Et comment faire ? Ça ne se fait pas en faisant de la promotion, ça ne se fait pas en faisant de la médiation. On le sait, parce que ça fait des années qu'on fait ça et ça ne marche pas. C'est une forme de combat très inégale, avec un monde dominé par les forces de l'argent et de la communication, qui essaie d'attirer les gens dans d'autres directions que l'expérimentation théâtrale, évidemment. Dans la mesure où on n'est pas des secteurs de consommation et que le public obéit prioritairement aux injonctions des marchands de marchandises, c'est compliqué. Mais c'est possible. C'est possible parce que je pense que les humains sont dotés de sensibilité. N'importe qui est doté d'intelligence et de sensibilité et peut rencontrer une œuvre d'art. Je pense vraiment ça, absolument. Je ne pense pas que tout individu est un artiste, je ne crois pas. Mais tout le monde est doué de sensibilité et capable de rencontrer quelque chose, même d'abscond, de difficile ou de poétique. C'est possible. Mais on vit dans une société qui est très armée pour déchoir les individus de leurs capacités, de ces capacités-là. Donc l'enjeu pour nous, qui est à la fois immense et très difficile, c'est d'amener les habitants de Gennevilliers, mais les autres, n'importe quel citoyen, à voir en eux-mêmes qu'ils en sont capables. Notre principal ennemi, c'est toutes les préventions que les individus intègrent en eux, qui leur font dire « ça n'est pas pour moi ». Je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas la culture, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est tous ces complexes d'infériorité finalement qui font que les gens n'osent pas trop aller au théâtre, avec en plus cette idée qui est quand même dans tous les esprits que le théâtre c'est ennuyeux. C'est parfois vrai, ça l'est souvent malheureusement, mais ça ne l'est pas toujours. Ça peut être vraiment bien. On peut faire vraiment des rencontres, on peut vivre des moments importants qui peuvent s'inscrire dans l'existence au même titre qu'une expérience de la vie. Donc ça va être un travail de patience, d'immersion, comme ce que vous faites avec la radio, l'unité radiophonique mobile. Il faut être présent, il faut consacrer du temps aux gens, il faut être là et soi-même manifester le fait qu'on s'intéresse à eux. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vers nous parce qu'on est des bons artistes. Il faut aussi aimer le monde.
Merci beaucoup, Daniel Janto.